Bonjour à tous. La grande émission cette semaine est consacrée aux églises et notamment à la question de la jeunesse. Nous allons évoquer avec nos invités l'accompagnement, l'approfondissement ou encore l'évangélisation. Comment parler de tout cela aux jeunes aujourd'hui? Et nous sommes avec le père Pascal Girard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notamment le responsable de la pastorale du sport sur le diocèse de Clermont, aussi organisateur du Raid Fraternité. Nous évoquerons ensemble cet événement, mais aussi l'ensemble des thématiques que je viens d'évoquer. Et à vos côtés, nous avons Jérémy Alves, bonjour.
Bonjour.
Responsable de Jeune Plus, cette marque qui notamment se veut le contact avec la jeunesse sur le diocèse de Clermont pour évidemment leur parler de Dieu et d'Église. Nous allons évoquer ensemble tout cela pendant une trentaine de minutes. Alors, je me tourne vers vous, Jérémy Alves, parce que Jeune Plus, on le doit à vous. C'est-à-dire que vous êtes parti d'un constat avec cette intuition qu'il fallait peut-être parler différemment à la jeunesse, il y avait quelque chose qui ne collait pas.
Eh bien, en fait, la jeunesse a besoin aujourd'hui d'une église qui leur ressemble aussi, a besoin d'être fédérée autour de valeurs, autour d'un nom, et c'est pour ça qu'on a lancé cette marque Jeune Plus. Alors, on est un des rares diocèses à avoir une marque.
J'allais revenir justement sur cette notion marque, quand souvent on entend ça, on parle de marketing, on parle de commerce, on a quelque chose à vendre. Quand on a une marque, évidemment, ça a dû peut-être été reproché à un moment, ou est-ce que finalement c'est être dans l'air du temps?
Alors, on n'a pas quelque chose à vendre, mais on a tout cet aspect-là aussi de dire comment une marque, elle est là pour fédérer autour de valeurs. L'ASM Clermont-Auvergne est une marque qui fédère autour de valeurs sportives, etc. Mais ça reste aussi une marque, ce n'est pas qu'un nom ou un concept.
Ah, je cherche évidemment aussi à faire de l'argent, l'ASM, ce qui n'est pas tout à fait le cas, j'imagine. Le diocèse, je me tiens de faire vous, parce que Gérard, ça vous fait sourire. Parce que finalement, le diocèse, il n'a rien à vendre, entre guillemets.
Non, il est là pour apporter la bonne nouvelle. Et ne serait-ce qu'au niveau des jeunes, de pouvoir leur montrer que l'Église, et notamment le Christ, a quelque chose à leur dire.
Donc ça, c'est évidemment, il faut trouver le moyen, finalement, que les jeunes écoutent, tendent l'oreille, c'est ça?
Alors, en fait, je pense plutôt d'abord commencer à se mettre à l'écoute des jeunes. C'est à chaque époque, et maintenant on est dans des générations qui changent beaucoup plus rapidement, de toujours se remettre à l'écoute et d'abord se mettre à leur niveau. Moi, j'aime souvent dire que, comme le Christ, dans l'Évangile, il se met au niveau de la personne. Il écoute et progressivement, il va la faire grandir. Mais d'abord, il faut l'écoute avant de pouvoir parler.
C'est exactement, finalement, ce qui a construit Jeune Plus, cette idée de se mettre au niveau de la jeunesse, prendre son vocabulaire, prendre ses moyens de communication.
Oui, c'est mettre tous les outils que eux utilisent en œuvre. Et puis, Jeune Plus a quand même été construit au fur et à mesure aussi avec les jeunes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est là, comme dit le père Girard, pour écouter leur problématique de cette génération qui n'est pas la même il y a 20 ans ou il y a même 10 ans et construire avec eux ce futur-là et ce aujourd'hui aussi.
Alors, comment ça s'est passé, cette phase de construction de Jeune Plus, entre l'intuition qui était la vôtre, Jérémy Alves, et puis le résultat aujourd'hui? On évoquera notamment ce qui est proposé aux jeunes.
Oui, ben en fait, on l'a déjà évoqué en équipe diocésaine, puisqu'il y a une équipe diocésaine sur le service pour les jeunes, composée de 8 personnes, dont le père Pascal Girard, qui est délégué diocésain pour la pastorale des jeunes également. Et on a soumis cette idée, on l'a mis en œuvre, et après, voilà, les jeunes, on leur a montré toute la potentialité qu'ils pouvaient avoir derrière cette marque. Et ils s'y sont engouffrés. Aujourd'hui, ça continue de se construire. Des jeunes qui étaient l'année dernière en service civique avec nous, on avait proposé même une marque de vêtements Jeune Plus pour afficher des messages évangéliques explicites. Et ça s'est réalisé. Donc, on écoute la jeunesse, on ose des choses nouvelles. J'aurais jamais imaginé lancer une marque de vêtements, par exemple. Et ça marche. C'est plutôt positif.
Voilà, du courage, de l'audace. On va parler de ces différents moyens de parler à la jeunesse, notamment par l'accompagnement. Jérémy Alves, qu'est-ce que propose Jeune Plus pour finalement être dans cette dimension d'accompagnement?
Eh bien, on propose des soirées approfondissement théologique, notamment théologie en fût, qui est une de nos propositions phares pour les étudiants et jeunes professionnels.
Alors, on l'a précisé, théologie en fût, cette idée que, évidemment, autour d'un verre,
dans un bar clermontois en activité. Donc, on a un petit coin pour faire notre conférence. Et après, les jeunes participent à la vie du bar tout en échangeant sur des sujets qui viennent d'écouter, soit théologique, soit spirituel. Il y a toute la dynamique du magazine aussi qui apporte du contenu. On a un magazine Jeune Plus qui apporte du contenu pour nourrir les jeunes. Le site web, les réseaux sociaux, qui aussi apportent du contenu et pas seulement des divertissements. Et après, il y a tout l'accompagnement qu'on fait aussi avec les paroisses, parce que les premiers au contact des jeunes, ce sont les animateurs en paroisse. Et nous avons vraiment à être à leur côté parce qu'ils ont l'expertise du terrain et en même temps ils ont besoin de soutien. Donc c'est aussi là, l'accompagnement se joue vraiment toujours dans la proximité. Nous on a quelques propositions larges, mais c'est ce qui se vit sur le terrain dans chaque paroisse qui est vraiment l'accompagnement de proximité.
Père Pascal Girard, est-ce que notre église, elle sait parler aux jeunes ou est-ce qu'elle a besoin finalement de se transformer, comme vient de nous le dire Jérémy Alves?
Ben, on a toujours à s'adapter en fait, parce qu'on ne peut jamais dire on sait parler aux jeunes. C'est-à-dire que notre
une fois qu'on pense le savoir, il a été remplacé par un autre type de jeune.
Et puis surtout, enfin, le fait de dire les jeunes. Enfin, ce terme des jeunes est quand même toujours un peu ambigu parce que on doit s'adresser à tous les jeunes. Et il n'y a pas, je dirais, un jeune type. Mais nos propositions, comme le disait Jérémy, se veut très large puisque l'objectif, c'est vraiment de pouvoir toucher tous les jeunes. Et de pouvoir faire différentes propositions qui permettra de toucher les jeunes. Mais on a toujours à se poser la question parce que on n'est jamais arrivé en disant ça y est, on a trouvé la formule idéale. Il n'y a pas de formule idéale, mais toujours se dire comment on peut essayer de toucher plus de jeunes, comment ceux qu'on touche déjà, comment on continue à les accompagner, comment on va pouvoir toucher d'autres jeunes.
C'est intéressant parce que finalement, ce qui marcherait au Puy-en-Velay, à Clermont ou à Moulins ne fonctionnerait pas forcément à Rion ou dans un autre territoire.
Mais disons qu'il y a des choses qui marchent. Si je prends l'exemple, par exemple, des PLVTT qui ont commencé en 2000, où 5 ans après, il y avait 7-8 routes, et puis maintenant, on est à 35, donc pratiquement le tiers des diocèses font des PLVTT, et ça marche parce qu'il y a une intuition forte. Et après, il y a des intuitions qui sont plus spécifiques sur un lieu, qui vont marcher dans tel lieu et qui marcheront pas forcément dans tel autre lieu. Donc c'est intéressant à la fois de partager nos expériences pour se donner des idées, mais après, c'est toujours en fonction du concret du terrain et des jeunes qu'on a ou qu'on veut toucher.
Alors, c'est intéressant ce que vous parlez du PLVTT. C'est une des propositions qui, en effet, se développe un peu partout sur la province d'Auvergne, mais aussi bien au-delà. Père Pascal Girard, le sport et la foi, c'est quelque chose qui fait bon ménage, finalement, et qui fonctionne avec les jeunes?
Ça a toujours bien fonctionné. On a souvent... je dirais, dans cette génération-là, c'est plus les, entre guillemets, les adultes qui ont un petit peu de difficultés. C'est-à-dire que pour les jeunes, je dirais pour 80% des jeunes, le sport fait partie de leur vie, que ça soit dans la pratique ou dans la consommation, entre guillemets, c'est-à-dire voilà, de voir des matchs, etc. Et donc, notre, en tant qu'Église, on a à être présent aux chrétiens là où ils vivent, et le sport est une entité importante, et je dirais l'Église s'est toujours située, alors à certaines époques un peu plus que d'autres, un peu moins que d'autres, mais notamment avec les patronages, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a vraiment un enjeu essentiel d'être présent dans le sport. On a de plus en plus de sportifs de haut niveau qui témoignent, et il y a quelque chose à témoigner et à vivre avec les jeunes.
Ah, vous m'excusez de la comparaison, et je me tourne aussi vers vous, Jérémy Alves, mais est-ce que finalement, c'est pas une manière de cacher la dimension spirituelle derrière une activité sportive qui serait le premier, premier, la première volonté, ou en tout cas, première vraiment raison de la venue des jeunes dans des PLVTT ou d'autres propositions?
Ben, je pense que l'exemple du PLVTT est un bon exemple, c'est-à-dire que les jeunes, ils viennent, ils savent qu'ils vont faire un pèlerinage et qu'ils vont faire du VTT. Enfin, au moins pour les collégiens, puisqu'après, il y a les encadrants. Donc, la proposition n'est, entre guillemets, pas malhonnête. Et l'idée, c'est vraiment de dire comment on les aide dans leur présence au sport. C'est pas de dire, on va utiliser, comme vous dites, le sport pour faire du cato, mais comment on les aide à vivre leur sport.
Discrètement, quoi.
Voilà, voilà. Comment on les aide à vivre leur sport. Ils sont chrétiens, ils vivent le sport. Et ça m'est arrivé souvent d'intervenir auprès de groupes de collèges, mais même plus large que le département, où il y a cette question de dire, mais notamment pour les sportifs de compétition, mais si je recherche la victoire, est-ce que je suis chrétien? Parce que bah, il faut que je batte l'autre. Et de dire, bah, il y a une façon de vivre le sport et même la compétition chrétiennement. Et ça, c'est tout un enjeu qui est important, parce que ça touche pas uniquement le sport. C'est de se dire comment dans chaque partie de ma vie, ma foi se vit. C'est-à-dire que la foi, c'est pas le dimanche à la messe, mais ça se vit dans mon travail, dans mes loisirs, dans ma famille, comment je vis chrétiennement mes différentes activités.
C'est intéressant parce que il y a évidemment dans cette notion de dire Dieu est partout, tout le temps, évidemment, avec la jeunesse. Jérémy Alves, comment est-ce qu'on arrive à aborder ça avec les jeunes? Et notamment, on a l'impression qu'on a une multiplication des propositions qui sont des propositions un peu ponctuelles. Et là aussi, je m'excuse de la formule, mais une sorte de vie religieuse ou avec la religion qui serait un peu en saut de puce des JMJ à d'autres JMJ, d'un Pelé du Puy pour la province d'Auvergne à un autre Pelé du Puy, et puis entre-temps, oui, peut-être plus grand-chose. Comment est-ce que l'Église peut arriver à s'adapter et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui pour cela?
Elle a à s'adapter parce que de toute façon, on est en face d'une génération qui a des problèmes face à l'engagement et non pas un problème morale personnelle, c'est-à-dire que les jeunes ont envie de s'engager, mais la structure de leur vie ne leur permet souvent pas de s'engager. Je vois sur certains étudiants qui me disent on a le planning pour la semaine d'après. Chaque semaine, on a le planning pour la semaine d'après. Donc sur un mois, ils ne savent pas les horaires, et donc difficulté de s'engager, etc. Donc sur des propositions régulières, c'est très difficile de trouver des jeunes. Donc c'est de se concentrer sur des choses très ponctuelles, fortes. Et un autre aspect qu'on a beaucoup réfléchi aussi en équipe, c'est se dire, aujourd'hui, les jeunes, ils consomment aussi de l'Église. Et il ne faut pas le voir comme quelque chose de péjoratif. C'est-à-dire, s'ils consomment de l'Église, c'est qu'ils ont besoin aussi d'avoir un contenu de qualité, d'avoir des gens qui sont présents en permanence pour leur apporter un accompagnement, pour leur apporter de la nourriture à la fois spirituelle, humaine, etc. Et de se dire, c'est une fois qu'ils auront consommé l'Église, qu'ils se seront sentis bien et satisfaits, qu'ils deviendront aussi des parties prenantes et qu'ils s'engageront eux-mêmes plus tard, à leur échelle, selon leur disponibilité, dans cette Église. Et on le voit avec d'autres églises sœurs, qui ne sont pas des églises forcément catholiques. On voit ce système un peu où des jeunes vont consommer, entre guillemets, les propositions de l'Église. Et une fois qu'ils sont satisfaits, s'engagent et deviennent eux-mêmes acteurs.
Il faut adapter les paroisses à cela, par Pascal Girard, avoir peut-être des vitrines, des lieux où on peut venir trouver des choses à consommer. Ça peut en effet paraître un peu difficile si je me mets dans la tête certains de nos auditeurs ou auditrices qui sont engagés dans une paroisse, qui aimeraient voir des jeunes venir en effet tous les dimanches ou venir animer parfois les messes une fois par mois. Comment est-ce qu'on peut peut-être les amener à dire oui, donnez-leur cette possibilité de consommer parfois.
Disons qu'on le vit déjà en paroisse, que ça soit avec les jeunes, mais avec d'autres personnes.
C'est-à-dire et moins jeunes.
Oui. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, les personnes qui viennent demander le baptême pour leur enfant, qui viennent se préparer au mariage, c'est des fois du ponctuel parce qu'on les a pas vus depuis très longtemps, on les verra peut-être pas après, et c'est effectivement comment on leur fait une proposition pour les aider à vivre ce moment important, comment on les accompagne, et on leur donne envie de plus. Et je dirais que la proposition de la catéchèse, de l'aumônerie, est un petit peu dans cette perspective-là. C'est-à-dire que quand on regarde, ne serait-ce qu'au niveau des enfants, la catéchèse a quand même beaucoup évolué. La proposition au niveau des jeunes en aumônerie, d'autres propositions qui peuvent être faites, je vois notamment avec l'enseignement catholique, on a l'UCEL, la Fédération Sportive de l'Enseignement Catholique, voilà, il y a des propositions, il y a la FSCR, voilà, il y a pas mal de propositions qui sont faites. Après, il y a encore d'autres propositions, mais c'est toujours à se dire, voilà, on essaye de repérer en paroisse, par rapport aux jeunes, de dire, quels sont les jeunes qui sont sur notre territoire, comment on les repère, quelles sont leurs attentes et quelles propositions à faire. Donc il y a toujours cet esprit d'être attentif et de toujours se laisser bousculer, même si dans une paroisse, on peut avoir tendance à dire, on a nos structures, donc tout est bien organisé, ça roule.
De confort, en tout cas, qui s'installe, parce que aussi il y a une fragilité, parfois, très clairement, et que le confort rassure. Est-ce qu'il y a des mouvements qui sont forts, notamment autour de la jeunesse? Malheureusement, ils ne peuvent pas être là avec nous aujourd'hui, mais je pense au Scout de France, avec cette intuition chrétienne quand même très forte, qui accompagne évidemment aujourd'hui ce mouvement. Est-ce qu'ils ont des liens, ou est-ce que les paroisses entretiennent des liens avec ces jeunes, ou est-ce qu'elles aimeraient en entretenir plus souvent?
Les différents scoutismes touchent beaucoup de jeunes, et c'est vrai que le scoutisme fonctionne encore beaucoup. Et
ça marche bien, hein, oui. Et souvent ils sont complètement pleins, ils ont du mal à trouver des jeunes pour s'investir.
Alors, je dirais entre guillemets, ils sont obligés d'être en lien avec les paroisses, entre guillemets, par les prêtres. Parce que souvent, les scouts avaient leur aumônier spécifique. Maintenant, pratiquement à 95%, les aumôniers sont les curés de paroisse.
Faute de prêtres, oui.
Voilà. Et donc, c'est une chance, parce que ça, automatiquement, ça crée un lien avec les paroisses. Alors après, effectivement, il peut y avoir des troupes qui sont interparoissiales, mais aussi de plus en plus, je pense qu'il y a aussi un esprit au niveau du scoutisme de dire on va, plutôt que d'avoir notre messe tout seul dans notre coin, on vient rejoindre une communauté. Moi, sur mon ancienne paroisse, Sainte-Anne de Montjuset, j'avais plusieurs troupes, il n'y avait aucune troupe qui était matérialisée sur la paroisse, mais on avait de tous les styles de scouts qui étaient des jeunes de notre paroisse. Et régulièrement, ils venaient dans nos célébrations pour participer à la messe, de temps en temps pour animer, mais aussi de se dire, voilà, on vient pas simplement à la messe pour, entre guillemets, consommer de la messe ou pour vendre nos calendriers, mais j'avais souvent des troupes qui disaient, bah nous, on est là ce week-end, on peut vous donner un coup de main sur la paroisse. Voilà, donc il y a dans les deux sens, il y a à la fois les jeunes qui disent, bah voilà, nous on vient vers vous, et puis nous aussi, comment en paroisse, on est accueillant, on les accueille et on travaille ensemble.
Comment est-ce qu'on leur laisse un peu de place? Jérémy Alves, quand on est évidemment à la tête de Jeunes Plus, quand on voit des mouvements comme le scoutisme qui n'a pas de difficulté finalement à recruter, à cette capacité à toucher les jeunes, on se dit quoi? On se dit qu'il faut travailler encore plus avec eux, on essaye de se rapprocher, ou est-ce finalement c'est pas si naturel que ça, ou est-ce que c'est totalement autre chose?
Eh bien, en fait, on a à travailler ensemble, et ça c'est important, parce que voilà, il faut échanger et permettre les connexions. Néanmoins, c'est des structures qui sont en général nationales, qui ont une structure descendante au niveau géographique. Donc,
c'est bien structuré, oui.
Très bien structuré, et en soi, ils n'ont pas besoin forcément d'aide, entre guillemets, que
même
peut proposer
des diocèses, clairement, parfois, ils peuvent être totalement autonomes.
Un service diocésain propose de l'aide, donc c'est pas toujours nécessaire pour eux. Par contre, pour nous, c'est vrai que c'est inspirant, et on voit que, par exemple, lors de la première consultation pour le Synode des Jeunes, un des mouvements les plus plébiscités, c'était le scoutisme, parce qu'ils mettent les jeunes en engagement, parce qu'ils donnent des responsabilités, parce qu'il y a toute la pédagogie aussi, d'ateliers, etc., qui permet aux jeunes de s'épanouir. Et moi, j'avais été frappé, la première fois, j'avais découvert les schémas pédagogiques de chacune des branches, de voir comment c'était pensé, de tel âge à tel âge, telle progression, etc. Et donc, c'est une vraie école de vie. Donc, c'est pour ça que ça marche aujourd'hui. C'est une vraie école de vie, que les jeunes y trouvent de la responsabilité, et apprennent de fait après à s'engager.
On va alors dans un autre registre, mais Père Pascal Girard a évoqué le RAID Fraternité. En quoi finalement cet événement proposé sur le diocèse de Clermont, qui pourrait pourquoi pas inspirer d'autres diocèses de la province d'Auvergne, a une dimension, on va dire, spirituelle, une proposition qui est faite aux jeunes en termes de religion?
Alors déjà, c'est de vivre le sport autrement. En fait, c'est-à-dire qu'à la fois d'avoir un aspect compétitif.
On va rappeler le principe. Oui. On réunit beaucoup de jeunes, plusieurs centaines.
Voilà, oui, ça tourne autour de 500, 600 collégiens qui se retrouvent sur une journée, des collégiens d'enseignement catholique, une douzaine d'établissements catholiques qui se retrouvent avec différents ateliers sportifs et spirituels encadrés par des lycéens. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des équipes qui s'affrontent dans des sports, voilà, donc on va voir du rugby, on va voir du baseball, etc., du golf, kinball, etc. Mais ils vont s'affronter à la fois dans le but de gagner, parce que quand on s'affronte en sport, on essaye de gagner.
Faut pas le nier. Vous disiez tout à l'heure qu'on peut être chrétien et avoir envie quand même d'être le premier.
Voilà, c'est ça, mais aussi dans un esprit particulier. Et c'est là où on peut développer les valeurs du sport. Et pour prendre un exemple d'un sport qu'on a mis en œuvre depuis quelques années dans le RAID Fraternité, c'est le kinball. Moi, je trouve que c'est un sport qui est très...
Présentez-nous le kinball.
Voilà. Ouais. C'est un sport qui permet vraiment de vivre ensemble le sport. C'est-à-dire que c'est un sport qui joue à trois équipes avec un très gros ballon. Le but du jeu, c'est que toute l'équipe ensemble tient le ballon pour le lancer et il appelle une des deux autres équipes et lance le ballon. Il faut qu'un membre de l'équipe qui a été appelée récupère le ballon sans que ça touche par terre et les autres se regroupent autour de lui pour ensuite lancer. Et donc il y a à la fois un aspect de performance individuelle mais aussi performance par équipe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner si on ne joue pas en équipe. Et donc voilà, il y a tout cet aspect-là où on est à la fois en individuel, en équipe, contre d'autres équipes. Et voilà, donc il y a l'aspect de valeur sportive, mais après, dans les différents ateliers qu'on vit, on récompense aussi à la fin celui qui a vécu telle ou telle valeur de l'évangile qui a été mis en œuvre par rapport à tel aspect du sport. Et donc après, on termine toujours avec un grand flash mob qui marche bien.
Un flash mob, c'est une sorte de performance collective, dansée très souvent,
voilà, c'est
qui
ça.
Permet de réunir tout le monde d'un coup.
Voilà, et donc ça aussi, on le développe aussi, puisqu'il y a le raid fraternité, mais il y a aussi plusieurs raids sportifs de Luxel, où on reprend un petit peu cet esprit-là, avec différents ateliers sportifs, mais aussi toujours à essayer de mettre en œuvre des valeurs pour montrer que voilà, le sport et évangile vont ensemble.
Ah, excusez-moi, mais du coup, est-ce qu'on n'est pas justement dans la question du saupoudrage qu'on évoquait tout à l'heure, avec un événement une fois par an? Et qu'est-ce qu'il en reste à ces jeunes de cette journée-là? Est-ce que vous avez la capacité, la possibilité de leur échanger avec eux?
Alors, bah, certains jeunes vont vivre plusieurs raids, c'est-à-dire qu'à la fois le raid fraternité, souvent ils le vivent une seule fois, voire deux fois, puisque c'est cinquième, quatrième, en tant que participant, mais on en récupère des lycéens qui sont heureux de pouvoir venir encadrer. Alors après, il y a d'autres épreuves au niveau de Luxel, et après ça a aussi des répercussions dans leurs activités sportives, parce qu'il y en a beaucoup qui font du sport en club, et c'est vrai que c'est un événement que voilà, que les jeunes attendent avec impatience, parce que c'est vraiment un temps fort qui est là aussi de dire les temps forts aussi, c'est pas que du saupoudrage, c'est-à-dire que dans notre vie de chrétien comme dans notre vie humaine, on a besoin à la fois de temps forts et j'irai et du quotidien. Et l'important, effectivement, c'est de lier ça. Et souvent, ces temps forts permettent de souder les jeunes entre eux, au niveau de l'équipe, au niveau du collège. Et des fois, il y a des choses qui sont faites en amont, puisqu'ils ont tous, chaque établissement a son t-shirt. Donc, il y a aussi du travail en amont, des reprises après. Et donc, ça aide aussi les établissements dans leur pastoral. C'est-à-dire qu'il y a certains établissements où le raid fraternité, c'est pratiquement le premier événement qui est marqué sur l'agenda. Moi, je me rappelle, l'année dernière, le chef d'établissement de Massillon a dit, cette semaine, il n'y a aucune interro pour être sûr que tous les jeunes soient là. Il n'y a pas d'autres manifestations.
Sous-entendu, s'il y a des interro, ils ne viennent pas en cours, mais bon.
Non, c'est pas... Voilà, mais pour dire, c'est un événement majeur que nous, établissement, on a choisi de mettre en valeur pour les jeunes. Donc ça veut dire que...
Ça va bien au-delà, finalement, d'une simple journée qui serait en dehors de l'établissement. Ça veut dire que, finalement, ils le perçoivent, cette notion de valeur chrétienne. C'est quelque chose qui est quand même assez simple à comprendre et qui n'est pas diffus, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que les valeurs du sport, on évoquait tout à l'heure l'ASM, chacun vend des valeurs. Et l'Église a peut-être parfois du mal aussi maintenant, aujourd'hui, à s'y retrouver. Là où elle était hier, auprès de la jeunesse, une sorte d'étendard, elle doit partager le gâteau, entre guillemets, marketing, non, Jérémy Alves?
Et moi, en fait, là où la force en fait, de notre foi chrétienne, hein, c'est qu'on, au-delà de valeurs, ce qu'on partage, c'est qu'on est en lien avec une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas nous enlever, parce qu'il est unique. Donc c'est ça aussi qu'on a à faire découvrir aux jeunes. Quand le père Gérard parle des valeurs de l'Évangile, les jeunes sont dans ces journées-là référés au Christ lui-même. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait notre force, et que on pourra avoir toutes les valeurs de fraternité, d'égalité, etc. Mais sans le Christ, ça sera pas la foi chrétienne.
Il manquera toujours quelque chose, évidemment. Quand on veut aller plus loin, finalement, quand les propositions d'accompagnement, comme celles qu'on vient d'évoquer, on veut les transformer en un approfondissement, comment est-ce qu'on amène ces jeunes à se rapprocher encore un petit peu plus de la connaissance du Christ, à se rapprocher aussi un petit peu plus peut-être des textes, parce qu'on pourrait imaginer qu'à la fin d'un raid fraternité, ils partent tous avec une Bible, avec l'espoir qu'un jour ils l'ouvrent. C'est pas évident, c'est aussi indissociable finalement d'un parcours d'accompagnement de la jeunesse, non, Pascal?
Je dirais que cette proposition est déjà faite. Et pour le 10e anniversaire du raid fraternité, on avait offert à chaque jeune un évangile, mais pas simplement un évangile. C'est-à-dire que c'est des propositions qui sont faites justement par nos frères protestants. C'est-à-dire un évangile avec des témoignages de sportifs chrétiens de haut niveau qui parlaient aussi comment l'évangile, eux, les touchait. Et donc, il y a ces propositions-là, mais il y a de plus en plus, on a, et notamment avec le site Église et Sport, on a ces différentes propositions où on a de nombreux documents qui permettent d'aider notamment les animateurs pour aider les jeunes à approfondir. Mais on a de plus en plus de films chrétiens qui sont faits autour du sport et qui développent ces aspects-là. Donc, qui donnent aussi pas mal d'éléments pour enrichir, pour accompagner et pour pouvoir faire différentes propositions. Il y a 15 jours, j'ai une animatrice d'un collège de QC qui est venue me voir en disant « Moi, pour mes troisièmes, on va faire une proposition autour de sport et foi. » Et donc, il était venu me voir pour qu'ensemble, on bâtisse plusieurs temps pour justement que sur toute l'année, il y ait une réflexion et les aider à percevoir tout le sens qu'il y a entre les deux aspects.
Jérémy Alves.
Oui, l'approfondissement passe par plusieurs étapes. La communauté du chemin neuf, qui est une communauté qui rayonne beaucoup au niveau des jeunes, a pris une année qui s'appelle Next Step, c'est-à-dire comment je passe d'une marche à l'autre, comment je fais un pas de plus vers le Christ. Et on le voit bien, on a lancé cette année pour la première année l'année Disciple, qui est une année pour approfondir sa relation au Christ, pour mieux discerner aussi où on est appelé dans la société, dans sa vie de foi et dans l'Église. Et on voit que voilà, on a une dizaine de jeunes qui se sont inscrits, mais c'est pas la majorité. Et on voit que chacun a un pas à faire au fur et à mesure de sa vie spirituelle. Et c'est pour ça d'avoir une large gamme de propositions permet justement de faire ces pas d'approfondissement au fur et à mesure jusqu'à arriver à un engagement plénier dans sa vie.
Est-ce qu'il y a une attente, est-ce que vous voyez auprès de ces jeunes ou des jeunes, même si c'est compliqué de parler de manière générale, mais une attente finalement à aller plus loin, ou est-ce que ces grands rassemblements finalement leur suffisent aujourd'hui et ils remettent ça plus tard pour prendre une expression peut-être un peu populaire?
Moi je pense qu'il y a une vraie attente, parce que les jeunes aussi sont confrontés à devoir justifier leur appartenance aussi à l'Église souvent. Parce que maintenant, avec la crise qu'on a pu connaître ces derniers mois, quand on se dit chrétien et en plus catholique, ça peut créer des discussions.
D'autant plus qu'on affiche voilà. un sweatshirt avec, comme vous l'évoquiez tout à l'heure,
un message évangélique
dessus, on imagine, oui.
Mais, et du coup, ils ont besoin de se dire comment je parle de ma foi en restant chrétien, comment je rentre dans un débat sans être violence, en ayant les armes nécessaires pour expliquer ce que je vis et qu'il n'y a pas toujours les mots derrière. Et je pense qu'il y a ce vrai désir-là qui est présent, quoi. Après, c'est toujours la disponibilité. Je pense que c'est ça qui...
C'est là où il faut adapter.
C'est là où on passe les étapes, je pense. C'est combien je rends de temps disponible pour approfondir dans une vie qui est quand même très rythmée aujourd'hui.
Ce que j'entends dans ce que vous venez de nous dire, Jérémy Alves, c'est une sorte de besoin d'approfondissement, presque dans une position de défense, parce que je peux me sentir attaqué. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aussi des jeunes, ou que les jeunes ont besoin, tout simplement parce que le message de l'Évangile, c'est aussi un message d'amour, et que finalement, ils le retrouveraient et qu'ils en ont besoin pour progresser. Est-ce que ça, ils l'expriment?
Oui, aussi, oui. Bien sûr, parce que s'ils sont attachés à en parler... Dans un mode défensif. C'est qu'ils savent que c'est quelque chose d'important pour eux, qui a sens, et ils veulent donner sens. C'est-à-dire que, donc c'est ça, ils savent que ce message d'amour est important, que ce n'est pas que ce qu'on voit dans les médias, etc. Et ils ont envie d'approfondir aussi pour pouvoir rendre compte de ça, de cette joie qui les anime, quoi.
Père Pascal Girard, est-ce que vous ressentez cela auprès de certains jeunes?
Oui, on le voit effectivement, parce qu'on est dans une époque où je dirais que les chrétiens sont minoritaires dans les établissements, alors même dans les établissements catholiques, ils ne sont pas si nombreux que ça à être en aumônerie, à se préparer à la confirmation. Donc il y a toujours un petit peu, ils ont besoin d'avoir les armes pour pouvoir, entre guillemets, les armes, pour pouvoir partager. Alors il n'y a pas qu'un aspect défensif, mais il peut dire, moi je suis chrétien et je veux pouvoir témoigner.
Partager la bonne nouvelle.
Alors c'est vrai que on a été longtemps dans l'Église aussi à dire, on est chrétien, mais il ne faut pas trop se montrer. Mais de dire, on est aussi dans une société qui nous dit, si on commence à témoigner, c'est tout de suite du prosélytisme. Et maintenant, on arrive plus avec des jeunes qui disent, je témoigne, je suis chrétien, donc j'ai pas peur de le dire. Et j'irais même, si on peut reprendre sur un aspect sportif, on voit de plus en plus que les chrétiens, les catholiques, parce que les protestants l'ont beaucoup fait, dans le foot notamment, on le voit avec les Sud-Américains, etc., qui ont beaucoup témoigné de leur foi, et maintenant on voit de plus en plus des catholiques le témoigner. Si je prends l'exemple d'Olivier Giroud...
Attaquant de l'équipe de France,
voilà,
oui.
Un catholique convaincu, pratiquant, mais qui... avant, osait pas. Et depuis maintenant quelques années, il ose, et puis il s'investit en plus. L'année dernière, au PLVTT, il y a Paul Gédrasia qui est venu faire un témoignage.
Un joueur de l'ASM Rugby, oui.
Voilà, l'ASM Rugby, et qui a fait un très beau témoignage, qui a marqué vraiment les jeunes, de dire, si le week-end, je peux pas aller à la messe, moi, je vais à la messe en semaine. Voilà, des choses qui, pour les jeunes, est marquant de dire, il y a même des sportifs de haut niveau qui disent, moi, je suis suis sportif de haut niveau, mais je suis chrétien, je le vis et j'ai pas peur de témoigner.
Et ça m'apporte quelque chose au quotidien et c'est important dans ma vie, dans l'équilibre. Est-ce que finalement, pendant un moment, l'Église s'est pas contentée, excusez-moi de la poser comme ça, mais contentée de trop peu envers la jeunesse en se disant pas besoin d'investir, on fait ce qu'on sait faire depuis de très nombreuses années et ça ira bien comme ça?
Il y a eu une époque où on avait encore plein de jeunes, donc on disait on continue à faire les propositions qu'on fait. Et puis, si à tel endroit ça marche pas.
Il y en a deux, trois de moins, c'est pas bien grave.
Voilà, c'est pas bien grave. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment, enfin, peut-être pas spécialement un moment, mais on a eu aussi des acteurs qui se sont dit, on peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire, les propositions de Senepi, le PLVTT sont venues de personnes qui ont eu des intuitions en disant, on a des propositions nouvelles à faire aux jeunes parce que les jeunes, ça bouge. Et donc, on ne peut pas forcément faire toujours les mêmes propositions. Il y a des propositions qui continuent à bien marcher, on l'a évoqué avec le scoutisme, et puis d'autres qui ne marchent plus. Et bien donc, on passe à autre chose. On fait d'autres propositions, et puis les propositions qu'on fait actuellement, peut-être que dans quelques années, ça ne marchera plus. Donc, il faut aussi accepter de se remettre en question, pas dans le sens en disant « j'y arrive pas », mais de dire cette proposition, elle était très bonne, mais elle a vécu. Et donc, il faut passer à une autre proposition. Il faut, pas avoir peur de faire le deuil en disant, on est un petit peu dans cette perspective du semeur. Et j'aime beaucoup cette image quand Jésus dit, le semeur, il sème partout, même à des endroits où on se dit, tu vas pas semer sur le goudron, c'est complètement idiot. Mais il faut semer. Nous, on doit être là pour semer et de dire, ça peut germer. On sait pas. Faut faire des propositions. Et puis, si on voit que ça marche là, on la développe, et puis on essaye d'en voir d'autres. Et je pense qu'il faut qu'on soit toujours dans cette perspective de toujours être dans cette dynamique, et de jamais se dire, ça y est, je suis arrivé, c'est bon.
Ah, je suis arrivé, ou trop pessimiste, Jamy Alves, en disant, d'abord c'est foutu, et on n'y arrivera pas.
Oui, et puis on en revient à l'application des jeunes. Ce qui marche, c'est quand les jeunes sont impliqués. Et moi, la première question que je posais aux UAP...
Vous dites impliquer, c'est quoi ? On sait qu'aujourd'hui, il y a des modes de co-construction. Évidemment, ils ont vécu, grandi avec ça. Il faut que l'Église, aujourd'hui, co-construise.
Co-construise, et au moins, moi, la question que je posais toujours quand j'arrivais en UAP, là, parce que la première année de ma mission, j'ai visité pas mal de paroisses, et les gens disaient, mais comment les jeunes prennent leur place ? Moi, je leur disais, c'est pas comment ils prennent leur place, c'est quelle place on leur laisse prendre. Non, c'est ça, l'inverse plutôt. Quelle place on leur laisse prendre et du coup, c'est de dire, on a fait des cases pour les jeunes, c'est-à-dire en disant, vous rentrez là, il y a tout ça pour vous. Sauf que les jeunes ne voulaient pas cette case-là, ils voulaient créer leur propre case. Et comment aujourd'hui l'Église s'ouvre justement en disant, vous prenez ce que vous avez envie de prendre, développer à votre sorte,
etc. Schématise, un petit peu, en gros, les jeunes viennent pour animer la messe des jeunes, mais n'ont pas de contact avec les autres. Ouais.
Je vois là, on a un groupe qui est en train de se lancer, la Light in Dark, donc un groupe de jeunes, il y a des collégiens, des lycéens et des étudiants, qui sont venus nous voir un jour à la pastorale des jeunes, ils étaient une quinzaine, ils ont dit, nous on veut monter une messe des jeunes. Et voilà comment on l'imagine. Et puis ils ont parlé de leur équipe d'accueil, de leur équipe plus de lecture de la parole, d'animation, de faire des fraternités d'approfondissement de la foi. Ils ont dit, nous on veut créer un logo. Et ils avaient déjà toutes les idées. Alors que en temps normal, ils seraient arrivés dans une paroisse, on leur aurait dit, vous l'animez, donc vous prenez le créneau qui est ici, vous avez juste à choisir les chants, mais alors tout le reste c'est la parole. Donc là, ils ont vraiment
la décoration, c'est tel bénévole parce que c'est sa mission.
Et eux vont créer un univers, et on voit que même avant même la première messe qui sera le 5 octobre, on entend déjà dans presque tous les établissements de Clermont parler de cette future messe des jeunes, et il y a plus de 40 jeunes qui sont déjà intéressés pour s'y impliquer. C'est eux qui y ont pensé, c'est eux qui le construisent avec notre accompagnement, mais les fruits sont d'autant plus forts que si c'était nous qui avions fait la proposition en disant « il faut une messe des jeunes, qui est d'accord ?» etc. Donc c'est vraiment quand ça part d'eux et qu'on leur laisse aussi une liberté d'entreprendre.
D'aider, mais pas d'être forcément à l'origine, en tout cas,
des projets. Après, aussi des origines. C'est-à-dire que nous, on a ouvert des portes, mais en étant conscient qu'on peut devoir les refermer. C'est-à-dire, on ouvre des portes pour créer de la potentialité.
Semer, comme disait...
Et soit les jeunes s'engouffrent dans ces portes, et après, le développent à leur manière, soit on referme la porte, et c'est pas grave, on ouvre une autre porte, et on voit ce qui se passe. Donc il y a aussi ce côté... Essayons.
Alors, ce que je vous propose, Père Pascal Girard et Jérémy Alves, c'est de faire une très courte pause avec notamment un titre du groupe Hillsong qui nous dit Highlands, Song of Ascent. Et on se retrouve dans un instant, on parlera d'évangélisation. Comment parler d'évangélisation aux jeunes ou faire de l'évangélisation auprès des jeunes en allant peut-être un peu plus profondément dans les propositions, dans la manière de le faire, de leur parler notamment.
If the mountains were where you hide, I know how far I'd scale the valleys if you grace the other side. Oh, how long have I chased rivers from lonely seas to where they rise against the rush of grace descending from the source of its supply. 'Cause in the highlands and the heartache, you're neither more or less inclined. I would search and stop at nothing. You're just not that hard to find. So I will praise you on the mountain, and I will praise you when the mountain's in my way. 'Cause you're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows, and no less faithful when night leads me astray. 'Cause you're the heaven where my heart's in the highlands and the heartache all the same. Oh, 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 how far beneath your glory does your kindness extend from where your feet rest on the sunrise to where you sweep the sinner's path. And oh, how fast would you come running if just a shadow me through the night, trace my steps through all my failure and walk me out the other side. For who could dare ascend that mountain, that valleyed hill called Calvary? But for the one I call Good Shepherd, who like a lamb was slain for me. So I will praise you on the mountain, and I will praise you when the mountain's in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. You're no less God within the shadows, and no less faithful when the night leads me astray. 'Cause you're the sing. the pastures we call gray. A mighty river flowing upwards from a deep but empty grave. So I will praise you on the mountain, and I will praise you when the mountain's in my way. You're the summit where my feet are. I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows, no less faithful when the night leads me astray. 'Cause you're the heaven where my heart, in the highlands and the heartache all the same.
Highlands du collectif Hillsong pour l'émission, la grande émission RCF Église en mouvement, avec Jérémy Alves de Jeune Plus sur le diocèse de Clermont et du père Pascal Girard. Alors nous, nous évoquons la jeunesse, comment parler, comment l'Église peut se rapprocher de la jeunesse et lui parler à l'oreille, mais de la bonne façon, avec les bons mots. On va parler maintenant d'évangélisation. Alors peut-être, je me tourne vers vous, Pascal Girard, parce que pendant la pause, vous m'avez dit, c'est un mot qui m'énerve un petit peu, et c'est l'occasion peut-être de rappeler ce qu'on y met derrière ce mot-là, finalement, parce que c'est vrai qu'on l'utilise peut-être à peu près à toutes les sauces. On y rajoute même maintenant des nouvelles évangélisations, comme s'il fallait totalement tout revoir.
Ben, c'est vrai que, je disais, il faut se méfier aussi des slogans en disant la nouvelle évangélisation. Je dirais qu'il n'y a pas de nouvelle évangélisation. L'évangélisation, elle est tous les temps. Et on a sans cesse à réannoncer la bonne nouvelle.
Et c'est la même nouvelle.
Voilà, c'est la même nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas... Alors après, c'est des façons nouvelles qu'on a à vivre. Mais aussi, il faut faire attention de ne pas s'enfermer derrière des slogans et ne pas agir en disant il faut faire de l'évangélisation, il faut faire de l'évangélisation. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, comment, au niveau des jeunes, par la musique, par le sport, c'est des éléments essentiels. Mais comment on s'en donne les moyens aussi ?
Je me tourne vers vous, Jérémy Alves. C'est-à-dire que Pascal Girard nous parle de musique. C'est vrai que du coup, on peut trouver plein d'autres manières. Vous le disiez aussi pendant la pause, il y a aujourd'hui des artistes reconnus de variété, hein, qui ne sont pas des artistes spécialement chrétiens ou de rock chrétien, qui aujourd'hui, dans leur travail, peuvent aussi être dans une démarche d'évangélisation.
Bah, d'une certaine manière, je vais vous citer quelques noms. Vianney, on le sait qu'il est catholique, il en a déjà parlé dans les médias. Vous retrouvez des chansons de lui avec des phrases de... Quand nous, on est chrétiens, on l'entend, on dit « mais bien sûr, c'est la Bible ». Les Frangines qui ont fait donc qui sont co-auteurs de « Donnez-moi ». Pareil, « Donnez-moi », c'est une copie presque dans le refrain de l'épître... de Saint Paul, que l'hymne à la charité, donc c'est si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, donc c'est quasiment une copie. Donc ça passe dans la culture ambiante parce qu'on l'écoute à la radio, etc. Lauren Daigle, que dans le magazine Jeune Plus nous avions mis, qui est maintenant sur Énergie, sur Virgin Radio, sur d'autres radios, la vôtre aussi, je l'ai déjà entendu. I am, c'est voilà, ce sont des textes qui parlent de Dieu. Et qui influent sur la culture sans le savoir. Donc les gens,
c'est pas du plagiat. C'est du d'évangélisation.
En fait, ils font de la culture un moyen. En fait,
ils ont envie de partager.
Ils ont envie de partager ce qui fait.
Le texte qui les a marqués.
Voilà. Et voilà. Et ça, c'est des vrais lieux d'évangélisation. Parce que l'évangélisation, on a toujours aussi tendance à la concentrer dans l'évangélisation de rue. Voilà. Et ça ne s'arrête pas que là, quoi. Les gens qui évangélisent aussi par un simple sourire, parce qu'ils sont identifiés chrétiens, ils sourient, ils sont un visage du Christ qui se rend disponible. Enfin, l'évangélisation, c'est très très large.
C'est très large. Avant de développer sur ce que vous faites, nous, particulièrement à Jeune Plus, justement, comment est-ce que vous le voyez ? C'est un aboutissement qu'un jeune rentre dans une démarche d'évangélisation ? C'est quoi ? C'est l'objectif, évidemment, parce que c'est la mission de tous les chrétiens ? Ou est-ce que finalement, c'est quelque chose qui est adapté à certains jeunes et on ne peut pas le demander à tous ?
Oui, alors nous, sur le diocèse de Clermont, il y a peu de jeunes qui font le pas encore de l'évangélisation dans l'espace public, je parle. On souhaite les éveiller à ça, non pas parce que c'est une obligation, mais parce qu'on se dit que quand on commence à témoigner explicitement, c'est qu'on se sent à l'aise et qu'on se sent sûr de ce sur quoi on s'appuie, et qui est Jésus-Christ, sur qui on s'appuie. Et l'évangélisation, pour nous, n'a pas de démarche prosélyte, c'est-à-dire que c'est vraiment aller à la rencontre des gens dans un témoignage de ce qui nous anime, partager gratuitement. Après, ils en font ce qu'ils en veulent. Et le but, c'est pas de remplir les bancs de l'église, mais vraiment de juste d'annoncer le message. Et c'est ce que disait Jésus. Allez devant de moi aux 70 disciples. Allez devant de moi et annoncez que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. C'est tout. C'est après qu'il demandera qu'on fasse des disciples et qu'on les baptise. Mais il y a aussi cette première étape de dire annoncer simplement que le royaume arrive.
Pas d'obligation de résultat ?
Pas d'obligation du résultat. Et ça peut être parfois frustrant, parce que justement, on peut mettre des moyens matériels, des moyens de temps aussi, et se dire, voilà, mais c'est aussi accepter que c'est pas nous qui évangélisons, et que c'est toujours l'Esprit-Saint qui
connaît pas grand-chose, finalement.
Voilà, on est des intermédiaires.
Ouais. Père Pascal Gérard, finalement, c'est ça, l'évangélisation, c'est dire, on fait ce qu'on peut, ce qu'on a à donner, on partage, et puis finalement, Dieu fait le reste.
Alors je dirais pas on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on doit faire et de donner le meilleur, c'est notre mission.
Qu'est-ce que vous entendez par là dans cette nuance? Bah parce qu'il n'en est pas une, hein, parce que oui. C'est quand même assez important.
Mais... On fait ce qu'on peut, ça veut dire c'est le minimum. Mais moi souvent je rappelle, par le baptême, on est appelé à être, on participe à la dignité de prêtre, prophète et roi, du Christ prêtre, prophète et roi. Et donc on a le baptême nous donne une mission. Et entre guillemets, c'est une obligation. On a obligation à vivre en chrétien, mais aussi à être témoin de cette bonne nouvelle. Donc c'est pas simplement les évêques, les prêtres qui ont cette mission d'annoncer la bonne nouvelle, mais c'est pour tout chrétien. Et ça, je pense qu'on a aussi à... Il y a tout un travail peut-être sur ces générations, de dire voilà comment on témoigne. Moi je prends l'exemple de la pastorale du sport. Souvent, il y a des événements qui se font parce que souvent c'est un prêtre qui a lancé tel ou tel événement. Il me dit, mais il y a suffisamment de chrétiens qui sont présents dans le milieu du sport, comment vous témoignez? Pas simplement les sportifs de haut niveau, mais comment un entraîneur, comment un accompagnateur de jeunes témoigne de sa foi. Alors effectivement, pas forcément en parlant de Jésus-Christ, mais dans sa façon d'être proche des jeunes, dans sa façon de les accompagner, eh ben, s'il le vit chrétiennement, ce sera un formidable témoignage. Et ça, il faut que chrétiennement, que ça soit dans le sport, dans notre travail, dans les différentes rencontres, qu'on soit vraiment tous des témoins. Et c'est comme ça qu'on arrivera vraiment à être des vrais chrétiens.
Après, sur Jeune Plus, on accentue beaucoup sur le fait de dire rendre visible explicitement Jésus. Est-ce qu'on s'est rendu compte aussi que souvent on agissait en tant que chrétien et on pouvait témoigner par ça, mais encore faut-il être identifié disciple du Christ. Et rendre Jésus visible, ça peut être par une image, par son nom, par sa parole. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Et on voit par témoignage, une jeune disait, moi quand je parle à mes amis athées, de Jésus mort, ressuscité pour nous sauver, ils ont envie d'en savoir plus. Ils sont interpellés, ils ont envie d'en savoir plus. Quand je leur parle de l'Église, ils ferment les portes. Et une des réflexions qui m'avait animé à un certain moment, c'était de me dire, si l'Église devient un mais, quelle est sa priorité dans l'annonce? Et aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils reçoivent, l'Église est un moyen. L'Église est là pour porter quelque
en fait,
chose.
C'est important, parce que c'est vrai que du coup, pour pouvoir envie de parler de quelque chose, il faut être très à l'aise avec l'ensemble de ses constituantes. Et là, vous nous dites, en gros, aujourd'hui, l'Église, elle ne donne pas envie.
Ben, c'est, moi, ce qui m'a plus marqué, c'est de dire, les gens ne sont pas du tout fermés au Christ. Dire qu'il est mort et ressuscité, ce qui nous paraît quand même déjà quelque chose de dur à accepter, quoi, quand on est athée. Là, les jeunes se posent la question, oui. Parce que c'est une génération qui a une vraie soif spirituelle. Et ces questions de mort, de résurrection, c'est pas des choses aberrantes, comme il y a pu avoir dans le passé des générations qui, elles, trouvaient ça aberrant. Là, c'est quelque chose qui interpelle et ils ont envie d'aller plus loin. Donc, la rencontre avec la personne du Christ est possible aujourd'hui. On a un terreau favorable à ça. Comme je disais, aujourd'hui, dans l'évangile, on voit ça, les gens changent leur vie lorsqu'ils rencontrent le Christ. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique où la seule parole de l'Église audible dans les médias, c'est une parole morale et politique. Et c'est le deuxième niveau de communication que j'appelle. Le premier niveau, ça doit être le Christ. Et c'est une fois qu'on a le Christ et les lunettes du Christ qu'on comprend le discours de l'Église sur la morale et la politique. Mais si on n'a pas les lunettes, si on n'a pas les lunettes du Christ, il est sûr que ce discours-là sera perçu comme réducteur, aliénant, voire condamnant. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé, et le pape insiste beaucoup dans Christus Vivit, réapprofondir le kérigme et la relation au Christ. Réapprofondir ce Jésus est mort, ressuscité pour nous sauver, qui est la base de la foi et le premier message qu'on a à donner. Et c'est pour ça que dans Jeune Plus, dans nos démarches d'évangélisation, On met le Christ en premier.
Pascal Girard, l'Église s'est plantée en parlant pas des bonnes choses à la bonne manière.
Non, je dirais pas que l'Église s'est plantée. Moi, j'ai toujours en tête cette parole d'un collègue prêtre. Quand moi j'étais séminariste, il me disait avec les enfants, il suffit de leur faire retenir trois mots. Dieu est amour. Et c'était il y a plus de 20 ans. Et on doit toujours revenir à ça en disant l'important c'est Dieu. Si le Christ a créé l'Église, c'est pas pour que ça soit une institution qui soit figée, mais c'est pour que il y ait une organisation qui permette justement qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle et de garder à l'esprit que Dieu est amour. Et c'est ça qu'on a invité à faire découvrir. Dieu est amour, et Dieu est amour s'est manifesté par le Christ qui est venu au milieu de nous pour nous apporter le salut. Et donc on a vraiment à faire découvrir, je dirais, toutes nos organisations sont bonnes si elles servent à quelque chose. Si c'est pour dire, il faut à tout prix qu'on ait nos petites paroisses, juste pour dire, on est structuré, on est organisé, tout va bien, ça sert à rien. Mais si on a des paroisses, si on a des relais dans nos paroisses, c'est pour être au plus proche des gens, pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir leur témoigner Jésus-Christ. Que ça soit les paroisses, si on a créé des aumôneries, si on a des, enfin, tout ce qui est mis en place, c'est pas pour les structures, mais c'est pour les personnes.
Oui, moi, jamais. Je parle souvent de passer de la pastorale de la conservation à la pastorale de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire comment aujourd'hui on se laisse bousculer, et comment on se laisse toujours réinterroger sur notre manière de faire, et comment on revient à l'essentiel du message du Christ. Et ce week-end, actuellement, là, à Paris, Congrès Mission, des milliers de personnes sont là pour se poser des questions, parler de leurs initiatives, et je trouve ça magnifique de voir que c'est un vivier de toutes les
initiatives,
inspirations de l'Esprit Saint dans l'Église, quoi.
Beaucoup de jeunes, notamment, qui y participent tout au long de ce week-end. Merci à vous deux, Père Pascal Girard de la pastorale du sport et aussi aumônier donc de la pastorale des jeunes sur le diocèse de Clermont. Merci à vous, Jérémy Alves de Jeunes Plus, c'est sur le diocèse de Clermont, mais avec des liens aussi avec la pastorale des jeunes des diocèses de la province d'Auvergne. Merci à vous.
Merci.